Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de ce numéro de Vivante Église. Les obsèques du pape François ont eu lieu samedi 26 avril, mais nous n'en avons pas terminé encore avec le bilan de son pontificat qui fut riche dans beaucoup de domaines. Dans cette émission, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux positions qui étaient les siennes en ce qui concerne les questions sociétales. Pour y revenir, j'ai invité le frère Tanguy-Marie Pouliken, membre de la communauté des Béatitudes, professeur et enseignant-chercheur à l'Institut catholique de Toulouse, auteur du livre « S'accomplir pleinement » qui se réfère beaucoup à la pensée du pape François, paru aux éditions MAM. Bonjour frère Tanguy-Marie.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à mon invitation pour ce retour sur le pontificat du pape François dans le domaine sociétal. Avant d'y venir, il y a une question que je voulais vous poser au préalable. Il me semble que fut un temps où on n'attendait pas forcément un pape sur les sujets dits sociétaux, les positions de l'Église étant claires là-dessus depuis longtemps, que ce soit sur l'homosexualité, la contraception, l'avortement, la fin de vie ou le célibat des prêtres. Est-ce que la place que ces questions ont prise dans les sociétés occidentales à notre époque oblige le souverain pontife à s'exprimer dessus, qu'il le veuille ou non? Est-ce qu'un pape ne peut plus s'y soustraire, l'Église devant être de plein pied dans le monde?
Le catholicisme, la position catholique est nécessairement sociale. À l'époque de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, il y a eu tout un débat entre les communistes et socialistes à l'égard des catholiques, disant qu'ils étaient un peu hors sol et qu'ils ne s'intéressaient pas aux questions sociales. La grande réponse intellectuelle est venue de la bouche du cardinal Henri de Lubac, qui, dans son ouvrage « Catholicisme », a dit que le catholicisme est nécessairement social. On ne peut pas être catholique sans engager une parole sociale, sans un engagement social. Et depuis Vatican II, depuis cet aggiornamento, ce tournant, l'Église s'intéresse beaucoup plus au vécu des gens, donc leur vécu dans la société, et on passe d'une posture qui est d'abord théologique, qui est toujours première, à une prise en compte des personnes, donc à une posture sociale. Et le pontificat du pape François a largement mis en avant cette conversion pastorale de l'Église, c'est-à-dire ce souci d'être proche des personnes, même si elles vivent parfois des choses difficiles.
Alors la question que se posent peut-être certains de nos auditeurs, c'est est-ce qu'il a fait bouger les lignes sur ces questions ou est-ce qu'il a été tout le temps conforme, peu ou prou, à ce que sont les positions de l'Église depuis longtemps, comme je le rappelais, sur ces questions? On va envisager les choses dans le détail. Depuis la mort du pape François, on a rappelé et rediffusé ses déclarations et prises de position sur l'homosexualité. Quel était le fond de sa pensée sur ce sujet et a-t-il varié dessus durant son pontificat?
L'attitude principale du pape François par rapport à l'homosexualité, c'est une attitude pastorale, d'accueil, d'écoute des personnes. On déplace la question théologique qui reste à une question d'accompagnement des personnes. On connaît ces prises de position qui ne changent pas la réflexion théologique, donc les prises de position fondamentales en morale, mais qui veulent prendre en compte l'accueil de chaque personne. Qui suis-je pour juger quelqu'un, une personne homosexuelle, qui veut faire la volonté de Dieu? Donc la question, c'est comment aider chacun à grandir dans la mise en œuvre, dans l'accueil, dans la mise en œuvre de cette volonté de Dieu. Oui, la question, c'est la grâce nous travaille tous quelque part. On est tous pécheurs, d'ailleurs, mais comment la faire grandir et de ne pas stigmatiser des situations sociales et des personnes. Donc, alors, il rappelle quand même que l'homosexualité, c'est un péché, ce n'est pas un crime. Dans son grand voyage au Congo, parce qu'il y a des cultures qui criminalisent l'homosexualité, mais il rappelle que l'homosexualité, c'est un péché. Alors, il ne faut pas confondre le péché et le pécheur. Le pécheur est toujours une personne. Et l'enjeu, c'est d'aller de l'avant pour rechercher toujours plus la volonté de Dieu. Alors, le pape François n'est pas du tout pour le mariage homosexuel. Hein. On ne peut pas parler de mariage homosexuel en régime catholique, mais il a été soucieux, d'ailleurs, lorsqu'il était déjà archevêque de Buenos Aires, de garantir la protection civique de ces personnes dans leur choix de citoyens de vivre ensemble. Mais ce n'est pas pour ratifier leur situation, c'est pour les encourager. D'abord, c'est pour les respecter en tant que personnes, les regarder d'abord en tant que personne unique et les inviter toujours à aller de l'avant. Donc la question sur l'homosexualité, elle est ressortie de manière brûlante dans cette note de Fiducia Supplicans, ce texte de la doctrine de la foi qui voulait permettre, dans la troisième partie, la possibilité de bénir les couples homosexuels. Alors ça fait un relevé de bouclier dans le monde entier. Le pape s'est publiquement rétracté. En tout cas, il a dit qu'il était d'accord. Il a accueilli les critiques, puisque la majorité des conférences épiscopales de la planète disait non. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant derrière? C'est de dire, dans ce texte, qui est quand même un texte de très très haut niveau, c'est de dire, bah oui, on peut bénir les personnes. Chaque personne est digne de bénédiction. Mais comme le lien, on pourrait dire, vécu, pratique, l'homosexualité pratique, mise en œuvre par des personnes homosexuelles et de l'ordre du péché, on ne peut pas bénir un péché. Donc ce qu'il faut retenir positivement dans ce texte, et que ratifie notamment la conférence épiscopale française, c'est qu'on peut bénir, et c'est bien de bénir à chaque personne, même si elle est homosexuelle, mais en tout cas, on ne peut pas bénir le lien en tant qu'il exprime la pratique de l'homosexualité. Donc ce qui est intéressant chez le pape François, et s'il y a une évolution, c'est l'aspect pastoral. Tout le monde est digne d'être accueilli. Ne stigmatisons personne, et avec cette invitation à donner à chacun, être homosexuel et chrétien catholique, ben c'est possible, d'accueillir dans nos communautés paroissiales, liturgiques, ces personnes pour ensemble rechercher la volonté du Seigneur.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un changement d'approche pastorale, comme vous le disiez, mais il n'y a pas de changement de doctrine.
Non, pas de changement de doctrine.
Sur ce qu'on appelle la communauté LGBT, bon, les gays, comme on dit, évidemment, sont englobés dedans, mais sur les questions de transsexualité ou les questions de genre, quelle était la position du pape François? Est-ce qu'il s'est exprimé dessus, d'ailleurs?
Là-dessus, il y a eu des... Par exemple, sur la question des transgenres, qui est quand même la situation la plus délicate. Alors, les ouvertures, en tout cas, des ouvertures qui n'avaient jamais été exprimées comme telles avant, donc des clarifications. Bon, les transgenres, bien sûr, ils peuvent être baptisés, mais ils ne peuvent pas être parrains de baptême. Donc tout l'enjeu, c'est d'accueillir à nouveau la personne. La personne est digne de recevoir la grâce du Seigneur, pour autant qu'elle est bien préparée. Alors pour lui, dans son texte « Dignitas Infinita », qui est encore un texte de la doctrine de la foi, mais signé par lui, aussi, le changement de sexe est une atteinte à la conception du corps, qui participe à l'image de Dieu, à l'image que Dieu a créée en l'homme. Donc, changer de sexe parce qu'on prend des hormones qui nous font déplacer notre identité masculine à féminine, tout ça, c'est pas respecter le corps en tant qu'il est un corps donné, ce roc biologique qui est lié au corps, car si j'ai un corps, je suis aussi mon corps. Et donc, porter atteinte à ce corps qui n'est pas un vêtement, mais qui participe à mon identité personnelle, puisqu'on ressuscitera aussi dans notre corps, hein, c'est la foi catholique. Donc, porter atteinte gravement à ce corps, ça ne va pas. Donc, la théorie du genre, lorsqu'elle glisse sur ces questions-là, il y a des choses intéressantes aussi dans la théorie du genre, sape la base anthropologique, dit-il, de la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme. Voyez. Donc, derrière ces questions de transgenre, des questions, on pourrait dire, de déconstruction identitaire à cause de la théorie du genre, derrière, c'est la cellule de base de la société qui, pour l'Église catholique, est le mariage entre un homme et une femme. Voilà.
Oui, et donc là-dessus, sa position a toujours été très tranchée, très claire, il n'a jamais varié. Hein.
Non, ça ne varie pas, mais ça clarifie. La question de rendre possible le baptême des transgenres, c'est intéressant à entendre, c'est une prise de position qui n'a jamais été exprimée comme telle.
Là aussi, comme pour l'homosexualité, c'est un changement dans l'approche, on peut dire, mais absolument pas. On ne remet pas en question jamais la doctrine de l'Église.
Non, on ne remet pas en question l'anthropologie fondamentale, l'anthropologie biblique. L'homme est créé à l'image de Dieu, pour lui ressembler, il a un corps. L'homme se révèle en face de la femme se révèle en face de l'homme, et la vocation de l'homme en ce monde, c'est de faire une expérience d'unité relationnelle en tant qu'elle est différenciée, et elle s'exprime de manière paradigmatique dans le cadre du mariage hétérosexuel.
Alors, il y a une autre question qui agite beaucoup les sociétés occidentales, mais la société française en particulier, c'est celle de la fin de vie, comme celle de l'interruption volontaire de grossesse a pu l'agiter il y a 50 ans. IVG que certains voudraient aujourd'hui intégrer dans la Constitution française. Sur ces questions, là encore, il me semble que le pape a toujours été très clair et que ses positions étaient en droite ligne avec celles de l'Église telles qu'on les a toujours connues.
Oui, tout à fait. Sur le fond, les lignes ne bougent pas. Il n'existe pas de droit à mourir, de droit à faire mourir. Et puis, avec de rappeler quand même que la souffrance ne fait pas perdre à la personne sa dignité. Alors aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès avec les analgésiques pour diminuer au maximum la douleur. C'est vrai que parfois on n'y arrive pas, ce qui pose des questions ultimes, mais la position, si elle a évolué, en tout cas elle s'exprime de manière nouvelle, dans l'accompagnement, accompagner les personnes au réel, pas à travers seulement des idées, des axes, des belles paroles, mais accompagner les personnes au réel, personnellement, de manière affectueuse, avec une grande proximité, et évidemment en les aidant à souffrir le moins possible. Voilà, c'est ensemble que nous naissons, c'est ensemble que nous allons mourir. Donc toute la lutte derrière, c'est l'accompagnement du mourant en lui redisant que son identité, elle est une identité relationnelle, et c'est pas parce qu'il est en fin de vie et entre guillemets moins utile à la société ou à une vie de famille, qui n'en est pas moins digne, et donc il a aussi vocation à aller au bout de son chemin de vie avec d'autres et pour d'autres.
Alors en ce sens, il faut bien rappeler qu'il s'inscrit totalement dans la continuité de ses prédécesseurs depuis Pie XII, hein, qui lui avait abordé le sujet, je crois, très explicitement dès 1957 à la fin de son pontificat, ce qui avait été rappelé par Jean-Paul II dans son encyclique Evangelium Vitae en 1995.
Oui, c'est, on a un droit de vivre, il n'y a pas de droit de mort. La vie d'ailleurs nous ayant été donnée, nous ne sommes pas propriétaires de notre vie. Alors dans une culture occidentale qui renvoie beaucoup à l'autonomie de la personne, à son autoréférencement, voire à son indépendance, non, de se rappeler que notre vie, elle vient de Dieu, c'est d'ailleurs lui qui crée notre âme, et que cette vie, elle va à Dieu, et que ça, bah, d'un point de vue catholique, c'est absolument non négociable.
Le pape François avait invité les médecins catholiques, je vais le citer, à faire des choix courageux et à contre-courant en vertu de l'objection de conscience. Ça, c'est un thème qu'il avait repris et développé en septembre 2019 devant la Fédération italienne des ordres des médecins chirurgiens et dentistes. Il se référait au serment d'Hippocrate. Il avait fustigé la fausse compassion face à la demande d'être aidé à anticiper la mort. Fausse compassion, ça, ce sont ces termes, et appel à l'objection de conscience. Ça peut choquer évidemment la société civile quand un pape, mais est-ce qu'il est bien dans son rôle en faisant cela?
Alors là, il ne fait que confirmer la position de Jean-Paul II, qui invitait non seulement les médecins, mais aussi les magistrats et autres, face à des questions de corruption pour les uns ou à des questions d'atteinte à la vie, de défendre l'intégrité de la vie humaine, l'intégrité de la vie de l'autre, mais sa propre intégrité. Le pape Jean-Paul II avait dit que c'est impossible pour un laïc d'avoir deux vies parallèles. C'est toute la question entre éthique de conviction, hein, et éthique de responsabilité. Non, on ne peut pas séparer éthique de conviction et éthique de responsabilité, parce que sinon on divise sa propre vie en deux, et quand on commence à diviser sa propre vie en deux, ben, on risque d'être diviseur dans ses relations sociales. Donc tout l'enjeu, c'est un enjeu d'intégrité, les médecins et bien d'autres. Voilà, on ne peut pas collaborer. Alors cette question est valable pour la fin de vie, elle est aussi valable pour l'avortement.
Et il s'est exprimé sur l'avortement et il avait parlé pour les médecins qui pratiquent l'avortement de tueurs à gages. Ça avait énormément choqué. Est-ce que vous reprendriez ces termes? Enfin, est-ce que vous comprenez qu'il ait pu employer ces termes?
Ah, mais tout à fait.
Ou est-ce, hein, que ça a pu être maladroit de...
Non, tout à fait, tout à fait.
Violent.
Une société qui se construit sur le droit de tuer ses enfants n'a pas d'avenir. C'est pour ça que c'est intéressant, dans le cadre du conclave, certains cardinaux posent un regard très critique sur la culture de mort qui régit l'Occident, parce qu'elle permet de manière diffuse le droit de tuer ses propres enfants. Non, la vie est à nouveau un don de Dieu. Le respect de la vie, c'est la condition de la fraternité. Et donc, dans nos sociétés, si on veut être frères les uns les autres, ben, il faut se promettre de ne pas se tuer les uns les autres. Hein. Le respect de la personne est une fin en soi. Hein. Et même la notion, vous voyez, d'IVG, c'est une ambiguïté de langage, interruption volontaire de grossesse. Non, c'est le signe d'un malaise des consciences. Non, c'est on tue un être humain. L'être humain n'est pas un être potentiel. C'est un être qui a, dès la fusion des gamètes, tout son potentiel. Et à ce titre-là, dès que l'enfant est, voilà, est un zygote, il est dans les trompes de Fallope, pendant quelques jours, il est déjà un être humain. Et comment un être humain ne serait-il pas déjà une personne ? Et la conscience du respect de la personne, on l'a dans notre culture, mais il faudrait pousser certainement cette conscience à nouveau dans sa fin inéluctable et dans son début nécessaire à tous.
Pour montrer à quel point le pape François a toujours été très cohérent dans ses prises de position sur ces sujets, début d'année 2025, donc quelques mois avant sa mort, voilà ce qu'il disait. « Je demande un engagement ferme pour respecter la dignité de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle, afin que chacun puisse chérir sa propre vie et que tous puissent regarder vers l'avenir avec espoir. » Et il avait utilisé ici, il avait repris la terminologie de l'opposition de l'Église à l'avortement et à la mort assistée. On en revient toujours là, hein.
Alors, puisque votre question de départ était est-ce que les lignes ont bougé ? Moi, je vous ai dit que les lignes, si en tout cas elles se sont approfondies d'un point de vue pastoral, c'est pas parce qu'il y a eu des transgressions graves, euthanasie et avortement, que les personnes qui les ont commis n'ont pas de résilience spirituelle possible à vivre. Donc, c'est tout le sens chez lui de la miséricorde. La miséricorde, elle ne met pas au placard le péché, mais elle ne condamne pas le pécheur. Et elle dit à chaque personne qui a transgressé, donc qui est pécheur, pour autant qu'elle accueille la miséricorde, qu'elle peut repartir de l'avant. Il n'y a pas de limite à la miséricorde pour celui qui veut recevoir la miséricorde. Ce n'est pas une excuse du péché, c'est simplement la possibilité ouverte grâce à la grâce de Dieu et à son amour, la possibilité pour tous d'aller de l'avant.
Est-ce que vous croyez que ce discours, qui est très clair, que vous venez de tenir, peut être entendu de nos jours ? Moi, j'ai l'impression que la société, alors je ne sais pas si elle ne l'entend pas ou si elle ne veut pas l'entendre.
Ah non, je ne partage pas tout à fait votre point de vue. Vous voyez, l'axe pastoral du pape François, c'est la question de la proximité. La force et l'amour de Dieu s'expriment dans notre capacité à être proche. Et donc, plus on est proche des gens qui vont bien ou des gens qui vont pas bien, les gens vivent davantage parce qu'ils se sentent eux-mêmes, puisque la personne, elle est corps, âme, esprit et relation. Et dans une société où les comportements sont de plus en plus individualisés et que les gens perdent une capacité de relation parce qu'ils sont derrière leurs écrans, hein, 30% de relations en moins par rapport à la génération précédente, et ben cette capacité d'être proche des gens, ce qui est le sens profond de la miséricorde, Dieu est proche, permet à chacun de repartir de l'avant. Je pense que cette proximité, tout le monde l'attend.
Nous allons faire la pause musicale habituelle dans cette émission, si vous le voulez bien, avant de poursuivre notre discussion. J'ai appris que le pape François était assez mélomane, même s'il n'était pas musicien comme son prédécesseur Benoît XVI. Et parmi ses œuvres favorites, il y avait par exemple la Grande Messe en ut de Mozart et la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, en particulier son superbe et poignant Erbarme dich. Thank you.
présence. Vivante Église, Éric Dupri.
Retour à l'antenne pour la seconde partie de Vivante Église avec le frère Tanguy-Marie Pouliquen, membre de la communauté des Béatitudes, professeur et enseignant-chercheur à l'Institut catholique de Toulouse. Nous avons abordé en première partie d'émission les positions du pape François sur les questions purement sociétales, celles de l'homosexualité, du genre, de l'avortement et de la fin de vie, des sujets que l'évolution des sociétés occidentales impose à l'Église et sur lesquels un pape est obligé de se positionner. Mais il y a aussi des questions que l'on peut qualifier de sociétales, mais qui concernent le fonctionnement et l'organisation interne de l'Église. Par exemple, celle des abus sexuels commis par des membres du corps ecclésial, celle du célibat des prêtres et celle de la place des femmes dans l'institution. Vu de l'extérieur, certains vous diront qu'elles ont tout un lien. Concernant les abus sexuels, quelles furent l'action et les positions du pape durant son pontificat ?
Alors d'abord, de dire que la question des abus sexuels, elle n'est pas réservée à des relectures de l'Église catholique. Hein. Les commissions civiques et SIAS se complètent réellement. SIAS pour l'Église catholique, civics qui disent simplement que les abus sexuels, il y a 10% des jeunes qui, en France, ont été abusés sexuellement, 14% pour les filles, 6% pour les garçons. Alors, en revenant à la SIAS qui porte un regard au scapel sur ces questions, la position de l'Église, d'abord, c'était d'accueillir les faits. C'était douloureux, hein, douloureux pour tout le monde d'ouvrir les yeux, hein, suite d'ailleurs à ce magnifique film à voir et à revoir, Spotlight, qui est le point de départ de la prise de conscience globale, mondiale, de ces faits dans l'Église, à partir du diocèse de Boston. Donc la politique, la posture de l'Église est très claire, c'est tolérance zéro. Il n'y a aucune légitimité possible à avoir lorsqu'on a posé des actes comme cela. Alors reste à respecter les personnes, tant les victimes que aussi les agresseurs. Alors il y a des plateformes qui ont été faites, le secret de confession a été confirmé, mais il y a une invitation pour le confesseur à dire à la personne qui se confesse, ben maintenant il faut que tu passes devant la justice, hein. Mais on garde le secret de confession. Tout cela pour que l'Église redevienne une maison sûre, hein, une maison sûre qui protège les personnes, parce qu'on croit en tant que catholique qu'on a quelque chose à vraiment de très très précieux pour la croissance intégrale des personnes en présence du Christ, mais pas de spiritualisme aigu. Hein. Il faut revenir au vécu. S'il y a des gens qui ont été victimes, ils ont le droit de dire qu'ils sont victimes et ils ont le droit à réparation. Alors la réparation n'est pas simplement financière, ça sera surtout une réparation psychique de la personne, spirituelle, de lui dire qu'elle a le droit d'être écoutée jusqu'au bout, et bien sûr s'il doit y avoir une indemnité financière, qu'elle soit concrètement donnée.
Oui, alors on va rappeler qu'il a multiplié, hein, durant son pontificat, les demandes de pardon aux victimes qu'il a régulièrement rencontrées. Ça, c'était une première pour un pape. Hein. Vous avez rappelé sa promesse, hein, le signal qu'il avait envoyé sur la tolérance zéro. Et il y avait différentes mesures qui s'en étaient suivies. Levée du secret pontifical sur les violences sexuelles du clergé. Obligation pour les religieux et laïcs de signaler tout cas à leur hiérarchie. Puis la création de plateformes d'écoute dans les diocèses du monde entier, mais effectivement, le secret de la confession demeure absolu.
Absolu. C'est du droit divin. Une personne qui veut confesser son péché, ouvrir son cœur jusqu'au bout, elle a le droit de pouvoir le dire librement et en toute protection. C'est le secret. Un confesseur n'a absolument pas le droit de dire à quelqu'un d'autre ce qu'il a entendu, sous peine que lui ne soit plus prêtre d'ailleurs.
On a pu lui reprocher au pape François de se montrer un peu distant lorsque le rapport de la SIAS était sorti, là, publié en 2021 donc, en France. Est-ce que vous croyez qu'il a été mal compris là-dessus ?
Non, il y a une question objective par rapport à la SIAS, c'est les chiffres et le nombre des scandales évoqués. Je pense que sur cette question-là, il n'y a pas d'accord, en tout cas profond, entre l'Église et le rapport. C'est pour ça que le président de la SIAS n'a jamais été reçu au Vatican, pour ne pas ratifier l'ensemble du rapport. Mais sur la question de fond, de regarder en face les problèmes, on peut dire que le pape François a pris à bras-le-corps cette question et que, ben voilà, c'est plus possible de faire double jeu.
Voilà, il a confié toutefois qu'il avait ressenti de la honte en découvrant le contenu de ce document. Le célibat des prêtres. Maintenant, alors voilà un vieux serpent de mer qui ressort régulièrement. Quelles ont été les positions, les déclarations du pape sur cette question? Est-ce qu'elles ont pu différer de celles de ses prédécesseurs ou est-ce qu'il a ouvert des portes sur cette question?
Sur cette question, il dit une expression qu'il a utilisée, le célibat n'est pas optionnel. Il n'est pas optionnel avant le diaconat. Quelqu'un qui se prépare à être prêtre, il ne faut pas qu'il ait des petites copines, etc. Il faut vraiment qu'il ait une vie intègre et qu'il montre qu'il est capable, durant son séminaire, de se préparer à cette discipline ecclésiastique. Le célibat est une discipline ecclésiastique, ce n'est pas un dogme. Donc en soi, ça pourra être révisé. On sait qu'à un moment où le pape, en tant que bon jésuite, a voulu ouvrir le débat à tout niveau, la curie romaine s'est un petit peu raidie aux certaines personnes, même c'était un des deux points un petit peu de désaccord un peu public entre le pape Benoît XVI, encore vivant à l'époque, et le pape François. Non, de ne pas remettre en question le célibat des prêtres dans l'Église catholique latine. C'est un grand don pour l'Église, le célibat, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce que les prêtres se marieront qu'il y aura plus de prêtres. Non, moi, je suis prêtre, je suis religieux. Bon, c'est un petit peu différent d'être prêtre séculier et religieux, mais la question, c'est vraiment de pouvoir, quand on est célibataire, de ne pas avoir un cœur partagé, parce que quand on est marié, on est un peu partagé, en tout cas à plusieurs niveaux, au moins affectif, oui, avec ses enfants, sa femme et puis son église.
Alors, c'est bien de rappeler ça, parce qu'effectivement, ce que les gens parfois n'intègrent pas dans la réflexion, c'est qu'un prêtre qui serait marié devrait aussi s'occuper de son foyer, donc de sa femme, de ses enfants, et par là même, il aurait moins de temps pour ses ouailles et sa paroisse.
Oui, oui. Alors, il y a question de disponibilité, question d'affectivité plus partagée. Alors, vous voyez, un signe de la position de fond du pape, c'est qu'il y a des cultures où c'est vrai, il y a parfois des prêtres qui ont eu des enfants. Voyez, dans son dernier voyage au Congo, à la CINCO, donc la conférence épiscopale du pays, il a dit que tous les prêtres qui ont des enfants arrêtent d'être prêtres pour s'occuper de leurs enfants. Oui, la position de fond, elle est claire. Dès qu'on a un enfant, on est engagé. On est engagé. Oui. Donc un prêtre qui a contracté mariage, tout en étant prêtre, en secret, il n'est plus prêtre. C'est terminé. Donc les lignes sont très claires, même si le célibat est une discipline ecclésiastique qui pourrait être révisée, mais c'est surtout un don, une grande chance aussi pour les fidèles. Alors lui, personnellement, a dit qu'il n'est pas prêt.
Oui.
Qui n'est pas prêt. Alors cela peut changer un jour, mais qui n'est pas prêt à se trouver devant Dieu avec cette décision prise. Donc sa conscience personnelle parle d'elle-même. Alors le débat, il a été ouvert pour les questions des missions périphériques dans l'Église. Par exemple, les grands espaces où il n'y a pas de prêtre possible, notamment en Amazonie, dans les territoires du nord du Canada et autres. Et le pape a, pour la première fois, je pense, évoquer la question des viri probati, c'est-à-dire de ces hommes âgés mûrs à la retraite, qui sont mariés, qui pourraient être ordonnés spécialement pour la célébration de l'Eucharistie. Alors c'est un débat qu'il qualifie d'ouvert, d'exception, mais d'ouvert. Alors dans les ouvertures possibles, en 2014, il a permis, vous savez, dans l'Église catholique, il y a des prêtres mariés.
Oui.
Il y a ceux qui sont de rite latin ou de rite oriental. Dans les rites orientaux, ils peuvent être mariés, ils ne sont pas nécessairement mariés. Et on peut être prêtre si on est déjà marié, on ne peut pas...
Oui, on ne peut pas se marier après avoir été ordonné.
Voilà. Et donc, la nouveauté, c'est qu'il a permis aux prêtres mariés d'église orientale d'exercer en Occident pour leur communauté de diaspora. Alors qu'avant, les prêtres qui étaient pour ces communautés devaient être des prêtres célibataires. Voilà. Donc c'est déjà... une ouverture, en tout cas une ouverture cette fois-ci pastorale.
La question du célibat des prêtres a été aussi posée par rapport à ce qu'on appelle la crise des vocations. Mais est-ce que ce serait une solution pour résoudre la crise des vocations que de remettre en question le célibat des prêtres?
Non, ce n'est pas du tout une solution. D'ailleurs, on le voit chez nos frères protestants, ça pose d'ailleurs des problèmes En plus, c'est-à-dire quand il y a des pasteurs protestants mariés qui divorcent, donc c'est doublement un problème, et la crise des vocations des pasteurs dans l'Église réformée, je dirais, est de taille. Et important, la question, c'est la culture occidentale. Est-ce que c'est une culture de vie qui vit à partir de cette présence de Dieu et qui veut déployer une dynamique de vie et d'amour, voilà. Et on sent que, comme l'avait dit en son temps le pape Jean-Paul II, il y a une apostasie silencieuse qui traverse notre culture occidentale, on pourrait dire surtout l'Europe, hein, parce qu'il parlait d'ailleurs de l'Europe, il ne parlait pas de l'Amérique du Nord. En Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Afrique, le christianisme est très vivant. Moi, je reviens du Congo. Quelle beauté cette église, quelle vitalité. D'ailleurs, il y a un rite congolais en plus, et puis il y a des chants en swahili, c'est magnifique. Donc, une expression culturelle et spirituelle de la foi qui signifie l'expression d'un peuple. Quand on a posé la question au pape François, quelle est la grande erreur du christianisme, il a repris une citation de Solzhenitsyn en disant, oui, c'est l'oubli du peuple. Oui. Donc toute notre question pour nous en Occident, dans notre expression de notre foi, c'est pas de l'exprimer de manière individualiste, intellectualiste, nous en France on est peut-être un peu comme ça, mais de l'exprimer en tant que peuple. Voilà, ensemble nous confessons notre foi.
On en vient à la place des femmes dans l'Église. Voilà une autre question épineuse qui revient souvent dans l'actualité. Il me semble qu'il a tout de même fait évoluer les choses sur ce sujet. Pas assez, diront certaines, trop, diront d'autres, peut-être.
Oui, alors, le génie féminin, bien sûr, est au cœur du dynamisme de l'Église. Alors, derrière, c'est des questions un peu anthropologiques qu'il faut aborder. Hein. Il n'y a pas une rivalité historique entre l'homme et la femme en termes d'empowerment, de prise de pouvoir. L'homme et la femme sont complémentaires, donc pas d'égalitarisme. L'important, c'est de trouver une grâce d'unité au cœur même des identités différenciées. Alors, le pape, lui, a été proche de cette question et il a encouragé des femmes à des fonctions de direction, hein, des femmes à la Commission théologique internationale, des femmes qui ont droit de vote au synode, une préfète au dicastère pour les religieuses, c'est maintenant une religieuse, le gouvernorat du Vatican, c'est une femme, donc des femmes ont pris des grandes responsabilités dans les fonctions de l'Église. Mais plus profondément, au plan théologique, si on veut entrer dans une complémentarité homme-femme, c'est articuler ce qu'on appelle principe marial, principe pétrinien. Le principe pétrinien, Pierre qui gouverne, qui a les clés, il est prêtre, et puis donc c'est les prêtres qui gouvernent. Mais ce qui est premier, ce n'est pas le principe pétrinien pour caractériser l'Église, c'est le principe marial. C'est Marie qui est mère de l'Église. L'Église, elle est enfantée par Marie. L'Église, elle est épouse et elle est mère. Et les femmes aident les chrétiens à être des épouses et à recevoir un enfantement en raison de leur maternité. Hein. Donc le rôle des femmes est essentiel, mais il ne passe pas par l'accès aux ordres sacrés. Alors, il y a quand même une évolution, pas par rapport aux ordres sacrés, mais par rapport à des mystères institués. Les femmes peuvent être lecteurs et acolytes. C'est-à-dire qu'elles peuvent être proches de l'autel et aider à la préparation de l'autel pendant la messe. Elles peuvent lire les évangiles. En tout cas, ça, c'est une évolution notable, qu'on ne voit pas d'ailleurs trop dans la pratique de la messe dominicale. Mais en soi, c'est une possibilité heureuse et surtout accueillons la complémentarité homme-femme et enrichissons-nous. Voilà. De cette question, moi je l'ai vu aussi au Congo, c'est la proximité des religieux, des prêtres et des laïcs, une grande proximité. Donc la solution, elle est dans une proximité de mission, être ensemble en mission. Par contre, s'il y a un chef qui n'est pas proche des autres, ben, ça ne passe pas. Voilà. Donc à nouveau, l'enjeu avec le pape François, il est surtout pastoral, c'est-à-dire de signifier à travers l'Église ce que veut signifier l'Église, à savoir une communion vécue qui exprime la communion trinitaire. Et pour rendre efficient et effective cette communion, de travailler ensemble, de s'écouter, et toute cette logique, tout cet approfondissement synodal, cette capacité d'être à l'écoute les uns des autres, je dirais, va dans cette perspective.
Alors, je vais rappeler quelques-unes de ses décisions et nominations. Hein. Début 2021, il avait nommé, et c'était pour la première fois, hein, un poste stratégique au Vatican, une Française, Nathalie Bécard, qui était devenue sous-secrétaire générale du Synode des évêques. C'est l'équivalent d'un rang d'évêque, mais sans le titre. Alors, en janvier 2025, donc très récemment, il avait nommé l'Italienne Simona Brambilla à la tête du ministère du Vatican en charge des ordres et des congrégations religieuses, un poste qui jusque-là était réservé aux cardinaux et donc exclusivement masculin. Et pourtant, malgré ça, il y a des milieux féministes catholiques qui déplorent que ces nominations soient, c'est leur terme, cosmétiques selon eux. Ils trouvent que la démarche est intéressante, bien sûr, mais ce n'est pas forcément contagieux. Je reprends encore leur terme et on est loin de la parité. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On n'en fera jamais assez dans ces cas-là.
Oui, alors ici à Toulouse, on a fait un colloque sur la place des femmes dans l'Église. Et toute la question, c'est entre féminisme radical et accueil du génie féminin. Le féminisme radical, il est de l'ordre de l'empowerment, c'est ce que j'ai dit, de la prise de pouvoir. Il est porté par un égalitarisme de genre, et donc l'homme et la femme doivent avoir les mêmes droits pour respecter chacun dans leur identité. Ben non, non, non. L'homme et la femme sont différents, et ce qui exprime l'humain intégralement, c'est la complémentarité de leur identité. Le Christ est un homme, le prêtre y rend présent le Christ. Et donc ce symbolisme sacramentel, il se veut réel, c'est-à-dire de rendre la réalité du Christ à travers son identité sexuée. À nouveau, si c'est pour affirmer un pouvoir aux dépens des autres, ça ne va pas. Pouvoir égale servir. Pour le pape François, et l'expression de ce service se fait par la capacité de s'écouter, d'être proches les uns des autres, et d'être en mission ensemble, pour exprimer ensemble, et c'est ce que les gens attendent, une expérience d'unité, voyez comme ils s'aiment, voyez comme ils sont heureux de se donner ensemble pour nous, gratuitement.
Pour terminer, est-ce que le pape François s'était exprimé sur la possibilité que dans un avenir proche, des femmes puissent être ordonnées diacres ou diaconesses?
Alors, ordonnées diacres, il y a des commissions, hein, il y a deux commissions successivement qui se sont rassemblées. La première prise de position ultime du pape François, c'est de dire ben non. Après, la question est revenue au synode, et comme il n'a pas écrit une exhortation apostolique à la fin de ce synode, il laisse ouvert les conclusions du synode, ouvert à des réflexions futures. Alors, il ne faut pas confondre ordre, accéder à l'ordre du diaconat et diaconesse. Historiquement, il y a eu des diaconesses dans l'histoire. C'était des femmes qui aidaient les femmes à se préparer au baptême. Et comme c'était des baptêmes par immersion, par pudeur, c'est elles qui se chargeaient d'emmener les femmes dans l'eau. La position de l'Église, c'est de dire que non, les femmes n'auront pas accès aux ordres sacrés. Alors évidemment, là, le féminisme radical, il est pas content. Il va exprimer tout ça à travers du cosmétisme. Non, le Christ est un homme, bon voilà, c'est comme ça. Hein. Donc la question de l'accès des femmes, en tout cas au sacerdoce, elle est absolument, le nom est définitif, la décision a été prise par Jean-Paul II, et rien ne pourra faire marche arrière, et par fidélité à la tradition, il n'est pas possible de faire marche arrière, c'est un lieu de désaccord avec les églises épiscopaliennes, donc anglicanes, et autres sur ces questions. Donc, oui, des diaconesses, oui, des ministères officiels institués, mais l'accès aux ordres sacrés, ça me semble définitivement non.
Eh bien, nous allons terminer là-dessus, puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il faut conclure. Un grand merci, frère Tanguy-Marie Poliquin, d'avoir accepté de faire avec nous un bilan de l'action et des positions du pape François sur les questions sociétales. Durant ces 12 ans de pontificat, le sujet était délicat. J'espère que nous l'aurons traité avec la délicatesse qu'il requiert, sans pour autant en éluder les aspects les plus sensibles. Je rappelle, avant de rendre l'antenne, la parution de votre livre aux éditions MAM « S'accomplir pleinement », inspiré en grande partie de la pensée et des écrits du pape François. Ce numéro était animé par Éric Dupri, il a été réalisé par Jonathan Botello. Merci à tous de votre fidélité à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.